Bonjour à tous, je me réjouis d'être parmi vous, mais surtout je me réjouis que nous avons l'occasion, le privilège de nous occuper un petit peu avec le livre de Ruth. Et nous avons deux parties. Dans la première partie, nous aimerions nous occuper avec le premier chapitre et nous aurons quatre décisions devant nous et leurs conséquences. Et dans la seconde réunion, nous voulons nous surtout occuper avec le deuxième chapitre et nous verrons quatre relations différentes et leurs bénédictions. Alors nous allons commencer avec le premier chapitre et nous aimerons lire Ruth, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Et il arriva dans les jours où les juges jugeaient qu'il y eut une famine dans le pays. Et un homme s'en alla de Bethléem de Juda pour séjourner au champ de Moab, lui et sa femme et ses deux fils. Et le nom de l'homme était Élimélec et le nom de sa femme Naomi. Et les noms de ses deux fils Maclon et Kilion, Éphratiens de Bethléem de Juda, et ils vinrent au champ de Moab et ils demeurèrent là. Et Élimélec, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Et ils prirent des femmes moabites, le nom de l'une était Orpa, et le nom de la seconde, Ruth. Et elles habitèrent là environ 10 ans, et Maclon et Kilion, eux deux aussi, moururent. Et la femme resta privée de ses deux enfants et de son mari. Elle se leva, elle et ses belles filles, et s'en revint des champs de Moab, car elle avait entendu dire au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple pour leur donner du pain. Et elle partit du lieu où elle était, et ses deux belles filles avec elle. Et elles se mirent en chemin pour retourner dans le pays de Juda. Et Naomi dit à ses belles filles, « Allez retourner chacune dans la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous avez fait envers les morts et envers moi. » Au verset 15, et Naomi dit, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne-t'en après ta belle-sœur. » Et Ruth dit, « Ne me prie pas de te laisser pour que je m'en retourne d'avec toi. Car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Ainsi me fasse l'Éternel et ainsi il y ajoute si la mort seule ne me sépare de toi. » Et Naomi vit qu'elle était résolue d'aller avec elle et elle cessa de lui parler. Et elles marchèrent les deux jusqu'à ce qu'elles arrivèrent à Bethléem. Et il arriva que comme elle entrait dans Bethléem, toute la ville s'émut à leur sujet, et les femmes disaient, « Est-ce cela Naomi ? » Et elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je m'en allais combler, et l'Éternel me ramène à vide. Pourquoi m'appelez-vous Naomi quand l'Éternel m'a abattu et que le Tout-Puissant m'a affligé ? » Ainsi, Naomi revint, et avec elle, Ruth, la Moabite, sa belle-fille, qui était venue des champs de Moab, et elles vinrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Jusqu'ici la parole de Dieu. Si nous lisons un tel chapitre dans l'Ancien Testament, il est peut-être bien de nous rappeler que nous pouvons voir trois différentes façons de contempler l'Ancien Testament, une telle histoire. On peut mettre trois différentes lunettes pour lire un tel livre. Les premières lunettes sont celles de l'histoire. Nous avons alors une histoire devant nous, nous verrons. Deuxième paire de lunettes sont celles de prophétie. Ce chapitre, ce livre nous montre aussi un côté prophétique qui est aussi important. Mais, et troisièmement, nous avons les lunettes de l'application spirituelle, de l'application à notre vie spirituelle, à notre vie de foi. Et tout d'abord, j'aimerais dire quelque chose concernant cette histoire. Je pense que la plupart de nous, nous connaissons sûrement cette histoire, mais il est important, le premier verset est important et le dernier verset aussi est important. Parce que le premier verset de ce livre nous montre dans quel état se déroulait cette histoire. Ça se passait alors dans les jours où les juges jugeaient. Et comment était l'état dans le temps des juges? Nous le lisons, le dernier verset, Juges 21, verset 25. « En ce jour-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. » Donc, il n'y avait pas de roi, c'est-à-dire pas d'autorité. Et deuxièmement, chacun faisait ce qui était bon à ses yeux, c'est-à-dire propre volonté. Chacun a fait ce qu'il désirait. Si nous pensons maintenant à notre situation, dans quel temps nous vivons, nous pourrions lire 2 Timothée 3 et nous verrons c'est exactement la même chose. Les personnes aujourd'hui, ils sont égoïstes, ils sont orgueilleux, ils pensent à eux-mêmes. Et nous vivons dans des temps fâcheux. On renonce toute autorité, soit dans les familles, soit dans le rassemblement, soit aussi dans la société. Alors nous vivons aussi dans un même temps comme Ruth a vécu. Et maintenant, ce qui est aussi important, c'est le dernier verset dans le livre de Ruth. Le dernier mot est David. Alors ce livre nous montre en fait d'où vient David. Il nous introduit David. Donc ce livre est entre les livres des juges et entre les livres de Samuel. Parce que dans le livre de Samuel, nous verrons que David est introduit comme roi. Et ce livre ici nous montre alors d'où vient David. Et David, nous savons, il est une image du Seigneur Jésus. Alors c'est pour ça que ce livre est très important. Malgré l'état misérable dans lequel cette histoire se déroulait, il y avait quand même un chemin pour la foi. On pourrait dire, dans le livre des juges, nous avons ce livre sous l'aspect de la responsabilité de l'homme. Et quand l'homme est vu sous sa responsabilité, nous voyons toujours la ruine, toujours la chute. Et la même chose dans les livres de Samuel, nous trouvons aussi l'aspect de la responsabilité de l'homme. Alors, ce livre de Ruth est encadré en fait de la ruine à cause de la responsabilité de l'homme. Et ce livre de Ruth nous montre la grâce. Nous verrons, c'est la grâce que nous voyons. Donc on pourrait dire, ce livre nous montre... Ce livre est comme une oasis dans le désert. C'est pour ça que c'est tellement beau. Aussi, quand nous pensons à nous-mêmes, nous avons vu, nous vivons dans un même temps, mais il y a toujours un chemin pour celui qui croit. Il y a toujours assez de grâce pour celui qui veut aller le chemin de la foi. Et cela montre le livre de Ruth. Alors nous avons deux grandes lignes qui traversent ce livre. Premièrement, c'est la grâce de Dieu présentée en Boaz. Il avait de la grâce envers Ruth. Et de l'autre côté, nous voyons la foi de Ruth qui, si on peut dire ainsi, qui approprie cette grâce pour elle-même. Et ça, c'est encore le même chemin pour nous aujourd'hui. La grâce de Dieu est là pour nous, toujours. Tous les jours, cette grâce est là. La grande question, c'est est-ce que nous prenons par la foi cette grâce personnellement dans nos situations dans laquelle nous vivons? C'est ça qui est important. Peut-être pour les enfants, un exemple. Si j'avais une plaque de chocolat ici devant moi, de la Suisse, et vous ne verrez pas cette plaque, elle est ici derrière, et vous pouvez me croire que j'ai une plaque de chocolat ici. Mais si je dirais, celui qui me croit, doit venir ici pour chercher cette plaque de chocolat, vous verrez, c'est encore une autre chose de s'approprier, de venir ici et prendre cette plaque de chocolat, ou au lieu de seulement croire, il dit la vérité. Alors vous voyez, nous croyons à la parole de Dieu, ça c'est vrai. Nous ne doutons pas que c'est la parole de Dieu. Mais la grande question c'est, est-ce que nous approprions de cette grâce qui est là personnellement pour nous? Et ça, nous verrons que Ruth, elle s'est appuyée par sa foi sur les promesses de Dieu. Peut-être juste quelques phrases concernant le côté prophétique. Nous avons ici Naomi qui est partie de Bethléem. Elle est allée à Moab. C'était d'abord Elimelech, mais Naomi nous présente le peuple d'Israël comme celui qui était, qui n'a pas, qui n'était pas obéissant aux lois de Dieu que Dieu a donné à son peuple. Et nous voyons le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, ils avaient le problème de l'idolâtrie, et puis ils ont encore, dans le Nouveau Testament, ils ont renoncé et crucifié leur Messie. Et à cause de ces deux péchés, le peuple d'Israël est mis de côté. Ils n'ont plus de droits, ils n'ont plus les promesses que Dieu a données à son peuple. Maintenant, le peuple d'Israël est Lo Ami, qui signifie pas mon peuple. Alors, Naomi représente ce peuple d'Israël qui a perdu tous les droits et toutes les promesses de Dieu. Mais nous avons lu au verset 22, dans le premier chapitre, ainsi Naomi revint et avec elle Ruth la Moabite. Comment il faut comprendre ce verset? Que Naomi est revenue, on est bien d'accord. Mais comment Ruth la Moabite est revenue? Elle n'a jamais été à Bethléem. Et ce verset, nous pouvons seulement comprendre dans le contexte prophétique, parce que Ruth est une image du résidu juif dans le futur avec lequel le Seigneur Jésus, il y aura une relation après avec son peuple dans le futur, avec ce résidu juif. Et Ruth représente justement ce résidu juif dans le futur. Et ce résidu juif entrera dans les bénédictions du royaume millénaire, pas à cause de leur fidélité, ou parce qu'ils ont mérité quelque chose, non, pas du tout, seulement par pure grâce de Dieu. Et cela nous est représenté justement dans la personne de Ruth. Mais maintenant, nous aimerions arriver aux applications spirituelles pour notre vie. Et nous avons 4 chapitres, et nous pouvons faire 4 titres, donner 4 titres pour chaque chapitre, un titre, sous l'aspect de Ruth. Dans le premier chapitre, nous avons la décision pour Christ. Nous verrons. Elle a pris une décision capitale. Puis, dans le deuxième chapitre, nous verrons la rencontre avec Christ. Si quelqu'un s'est converti, il a aussi le désir de rencontrer et de mieux connaître le Seigneur Jésus. Puis, dans le troisième chapitre, nous avons dans le premier et dans le dernier verset le mot repos. Alors nous pourrions dire, dans le troisième chapitre, nous trouvons repos en Christ. Celui qui est obéissant à la parole de Dieu, il pourra reposer en Christ dans les circonstances dans lesquelles il se trouve. Et finalement, dans le quatrième chapitre, nous avons communion en Christ, avec Christ. Communion avec Christ parce que nous avons dans le quatrième chapitre le mariage entre Boaz et Ruth. Et de cette liaison, il en résulte un fils, le fils Obed, qui est le grand-père de David. Alors, si quelqu'un vit en communion avec Christ, il en résulte du fruit pour Dieu. Alors, nous avons vraiment un tableau merveilleux, une image merveilleuse devant nous dans ce livre. Ruth, qui n'avait aucun droit, pas rien du tout, mais elle se convertit, elle se décide pour Christ et ainsi elle croit dans la foi et dans la connaissance, dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus et ainsi elle est elle vit dans la communion avec le Seigneur Jésus dans l'application et finalement il en résulte du fruit. Et ça c'est notre désir aussi pour nous, que nous décidons pour le Seigneur afin que notre vie soit à son honneur et qu'il y aura du fruit pour Dieu. Maintenant, nous aimerions commencer avec les décisions. Il y en a 4 décisions qui sont prises dans ce chapitre. 2 négatifs et 2 positifs. Nous commençons par les négatifs. Et ces décisions, nous verrons, sont tellement importantes aussi pour nous. Pourquoi ? Parce que notre vie dépend beaucoup de nos décisions que nous prenons. C'est clair, il y a des décisions importantes, on pourrait dire initiales. C'est la plus importante décision dans notre vie, c'est la conversion. Ça, c'est la plus importante. Puis, c'est le mariage, parce qu'on ne pourra plus changer. Et troisièmement, important, c'est aussi la profession. Celle, on peut encore changer, mais c'est aussi important. Le lieu de résidence. Nous voyons, ça, c'est des décisions que nous prenons qui sont importantes. Mais pas seulement ces grandes décisions sont importantes, aussi ce que nous décidons tous les jours dans notre vie. Et important, c'est toujours que nous décidons en rapport, en dépendance avec le Seigneur Jésus. Donc, la première décision, c'est celle d'Élimélec dans les 5 premiers versets. Et nous comprenons Élimélec un peu. Il avait une femme, 2 enfants, il y avait une famine. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il est responsable pour sa famille qu'ils ont assez à manger. Alors il réfléchit humainement, il réfléchit sans demander Dieu. Et ça, c'est le grand problème. Il agit alors sans avoir prié, sans avoir pris la décision en dépendance avec le Seigneur Jésus. Et il est allé à Moab. Et Moab, c'est même pas si loin de Bethléem. Alors, cette famine était en fait pour le peuple d'Israël, était pour Bethléem, pour le pays de Canaan. À côté, à Moab, il n'y avait pas de famine. Alors, parce qu'il voulait éviter la mort à cause de la famine, il est allé à Moab et à Moab, il a trouvé la mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie aujourd'hui? Tout d'abord, il habitait à Bethléem. Et Bethléem signifie maison du pain. Et Judas signifie louange. Et si nous pensons à cela, alors nous pensons directement au rassemblement. Parce qu'au rassemblement, nous recevons aussi de la nourriture spirituelle. Alors une édification, nous écoutons la parole, ça nous parle alors de la maison du pain. Et louange, nous pensons directement au culte, là où nous sommes assemblés pour la fraction du pain, mais aussi pour adorer Dieu et son Fils. Alors, comment est-ce qu'il est possible qu'à la maison du pain, il y a une famine? Est-ce qu'il est possible qu'à la réunion d'édification, il peut y avoir une famine? Nous aimerions lire un verset dans le livre du Deutéronome. Chapitre 8, Deutéronome 8. Là, il nous est parlé du pays de Canaan et Dieu leur a promis, Deutéronome 8, au verset 9, « Un pays où tu ne mangeras pas ton pain, dans la pauvreté où tu ne manqueras de rien. » Verset 10, « Et tu mangeras et tu seras rassasié et tu béniras l'Éternel ton Dieu à cause du bon pays qu'il t'a donné. » Alors ça, c'était la promesse de Dieu concernant ce pays. Mais après, plus tard, au chapitre 11, il dit, chapitre 11, au verset 16, « Prenez garde à vous, de peur que votre cœur ne soit séduit et que vous ne vous détourniez et ne serviez d'autres dieux et ne vous prosterniez devant eux et que la colère de l'Éternel ne s'embrase contre vous, et qu'il ne ferme les cieux, en sorte qu'il n'y ait pas de pluie, et que la terre ne donne pas son rapport, etc. Alors, Dieu a promis la nourriture dans le pays de Canaan, à part s'ils n'écoutent pas à sa parole, s'ils sont désobéissants, s'ils ont d'autres dieux. Dieu va fermer le ciel et il n'y aura plus de nourriture. Il y aura une famine. Donc, nous apprenons ici que la famine était une épreuve, un châtiment pour son peuple. On n'a pas le temps, mais si nous lisons le livre des Juges, chapitre 17, chapitre 19, nous verrons que il est parlé de deux personnes qui ont aussi vécu à Bethléem, mais dans le chapitre 17, nous trouvons l'idolâtrie et dans le chapitre 19, nous trouvons la fornication. Et les deux péchés en rapport avec Bethléem. Alors nous comprenons maintenant pourquoi Dieu a permis une famine à Bethléem. Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas selon les pensées de Dieu. Nous venons maintenant à notre situation. Je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais peut-être dans notre rassemblement local, il n'y a peut-être pas toujours la nourriture spirituelle que nous désirons. Peut-être, je ne sais pas, c'est trop compliqué, nous ne comprenons pas toujours tout. Peut-être, il y a de la faiblesse, j'en sais rien. Mais peut-être nous ressentons que Dieu ne peut peut-être pas nous bénir comme nous désirons. Et ça peut être à cause des choses qui ne sont pas réglées devant Dieu, c'est une possibilité, mais ça peut aussi être notre état spirituel. Et si nous lisons les noms de Maclon et Kilion, la signification de ces deux noms nous montre que Élimélec était déjà dans un mauvais état spirituel depuis longtemps. Maclon signifie « grande faiblesse », et Kilion signifie dépérissement. Alors, c'est des significations négatives. Et on peut appliquer que depuis longtemps, Élimélec n'était pas dans un bon état. Alors, il y a cette épreuve, cette famine. Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte. Il quitte Bethléem et il va à Moab. Si quelqu'un quitte le rassemblement, je l'applique maintenant, c'est souvent, ça ne vient pas d'un jour à l'autre. Souvent, ça date depuis longtemps que quelqu'un ne vit pas dans un état spirituel et peut-être il y a des problèmes, il y a même des péchés dans sa vie et il est toujours mécontent. Et puis après, c'est les frères qui sont fautifs et c'est les sœurs qui sont ça, etc. Et puis on n'est plus content, on part. Mais ça, ce n'est pas la solution. Nous verrons ça chez Élimélec, ce n'est jamais la solution de quitter. Je ne dis pas jamais, ça peut arriver, mais normalement, quitter, éviter une épreuve n'est jamais ce que Dieu désire de nous. Il est allé où? Il est allé à Moab. De quoi parle Moab? Moab est une image du monde, mais sous un aspect assez particulier. J'aimerais lire Jérémie, chapitre 48, un verset qui nous montre de quoi parle Moab. Jérémie, chapitre 48, au verset 11. « Moab a été à son aise dès sa jeunesse et tranquille sur sa lie. Il n'a pas été versé de vase en vase et il n'est pas allé en captivité. » C'est pourquoi son goût, lui, est demeuré et son parfum ne s'est point changé. Alors, c'est quoi le goût? Le goût, nous le lisons au verset 29, dans le même chapitre. « Nous avons entendu l'orgueil de Moab, le Très-Hautain, son arrogance et son orgueil, et sa fierté et son cœur altier. » Alors, de quoi parle Moab? Moab parle de son aise insouciant, on peut dire, est tranquille, il y a de la détente, mais il y a de l'orgueil là-bas. Et si nous regardons autour de nous, c'est exactement le monde dans lequel nous vivons. On peut se détendre, on peut être insouciant. Si on quitte le rassemblement, on trouve des milieux de différentes églises, on peut aller, on peut s'asseoir, on peut écouter, tranquille, insouciant. Mais nous vivons aussi dans un monde. 2 Timothée 3 nous montre cela, au verset 2 environ, que les hommes sont hautains. C'est exactement la même chose que Moab. Nous vivons dans un monde où on est orgueilleux. Et si nous lisons Apocalypse 3, cette lettre à Laodicée, Laodicée dit, ça nous parle du temps dans lequel nous vivons, « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Ça, c'est rien d'autre que d'être orgueilleux. Et ça, c'est exactement la même situation dans laquelle nous vivons. Autour de nous, on n'a pas besoin de l'aide de Dieu, on est tranquille. Alors, Elimelec, il va à Moab, il va dans le monde. Avec lui, toute sa famille, puis il meurt. Ses deux fils se marient, se lient avec le monde, ils marient deux femmes moabites. Et ensuite, les deux fils moururent aussi. Alors, les hommes moururent, les femmes restent. Les hommes nous parlent de l'état, nous parlent de la responsabilité. Les femmes nous parlent de la position. Une chose est sûre, même si quelqu'un quitte le rassemblement, même quelqu'un qui va dans le monde, même si quelqu'un s'éloigne de Dieu, la position en Christ reste toujours la même chose. On ne peut pas perdre notre position en Christ. On ne peut pas, si on est un enfant de Dieu, on ne va pas périr. Comment dire ? Périr, oui. On ne peut pas périr. La position reste. Mais la question, c'est comment est notre état ? Comment est notre responsabilité ? Et concernant la responsabilité, il a fait faillite. Ils sont morts. L'état misérable. Voilà, nous avons cette décision. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Au lieu d'éviter l'épreuve, il aurait dû rester à Bethléem. Pourquoi? Premièrement, parce que Boaz, nous verrons, est une image du Seigneur Jésus, est resté à Bethléem. Dans le deuxième chapitre, il est toujours là. Deuxième raison pourquoi il aurait dû rester, nous avons lu au verset 19 qu'il y avait des femmes qui étaient émues, qui ont reconnu Naomi quand elle est rentrée, c'est-à-dire ces femmes. Elles sont aussi restées à Bethléem et malgré la famine, elles ne sont pas mortes. Nous verrons. Et nous voyons, c'est très simple. Même s'il y a une famine, même s'il y a une épreuve, nous voulons rester tout près du Seigneur. Il va nous garder et il va nous aider dans chaque situation. Pour terminer cette première décision, nous lisons encore un verset dans le psaume 33. Psaume 33, au verset 19. Pour délivrer leur âme de la mort et pour les conserver en vie durant la famine. Voilà ce que Elimelec aurait dû faire. Rester vers Boaz, rester à Bethléem. Maintenant, la deuxième décision, c'est celle d'Orpa. Elle a pris aussi une décision. Nous voyons un bout de chemin. Elle est retournée dans le pays de Juda. Nous lisons cela en verset 7. Alors extérieurement, elle allait le même chemin comme Ruth et Naomi. Voilà. Deuxième point, elle pleurait au verset 9 et au verset 14, elle baisa sa belle-mère. C'est-à-dire, elle avait des sentiments pour Ruth et pour sa belle-mère. Elle avait peut-être aussi même des émotions. Troisième point, Elle dit au verset 10, et elles lui dirent, non, mais nous retournerons avec toi vers ton peuple. Alors il y a une certaine confession pour ce chemin, une certaine dévouement aussi, nous voulons aller ce chemin avec toi. Mais finalement, elle est quand même retournée. De quoi nous parle alors Orpa? Elle nous parle d'un chrétien professant. Quelqu'un qui a une confession, une profession dans le sens « je suis chrétien, mais ils n'ont pas la vie nouvelle ». Et cela nous trouvons aussi en 2 Timothée 3, qui nous parle justement de notre temps dans lequel nous vivons. Ils ont une forme de la piété, mais ils n'ont pas de puissance. Ils n'ont pas la vie éternelle, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et ça, c'est les gens qui nous entourent. Et nous voyons ici, dans la décision d'Orpa, qu'il ne suffit pas d'avoir des sentiments, des affections pour les frères et sœurs. Il ne suffit pas de réfléchir raisonnablement, parce que finalement, au verset 15, Naomi dit, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. » Pourquoi elle est retournée? Parce que c'était plus raisonnable de retourner. C'était plus logique. Parce qu'à Bethléem, elle ne pouvait plus se marier. Peut-être il faut encore lire ce verset parce que nous l'avons besoin encore plus tard. Deutéronome 23. Deutéronome 23 au verset 3. Dieu a dit dans sa loi, l'Ammonite et la Moabite n'entreront pas dans la congrégation de l'Éternel, même leur dixième génération n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel à jamais. Donc, une Moabite n'avait pas le droit d'entrer en fait dans le pays, dans le peuple d'Israël, c'est-à-dire ils n'avaient aucune chance de se marier à Bethléem. Nous verrons encore pourquoi Boaz a quand même marié Ruth, mais selon la loi, ils n'avaient pas le droit. Donc, je suis sûr, Orpa a réfléchi raisonnablement et logiquement, et finalement, elle a pris une décision. Elle avait alors des sentiments, mais les raisons étaient plus claires pour retourner. Alors, pour nous, ça veut dire le chemin de la foi que nous allons est un chemin entre le raisonnement et entre les sentiments. Parce que ça ne suffit pas d'avoir des sentiments, des émotions, ça ne suffit pas de réfléchir raisonnablement. Il faut avoir de la foi, nous verrons cela chez Ruth. Alors Orpa est une image d'un professant. Et j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui a grandi dans le rassemblement, qui était à l'école du dimanche, qui a entendu l'évangile à la maison, aux réunions, et qui ne s'est jamais décidé pour Christ. Vous savez, on ne peut pas rester neutre envers Christ. On ne peut pas rester neutre. Soit on est pour lui, ou contre lui. Peut-être Orpa était même pas contre aller à Bethléem, mais finalement, elle n'avait pas de foi. Elle parle de retourner dans le pays de Juda, mais elle ne parle pas du Dieu de ce peuple d'Israël. Ruth a parlé de Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Mais elle n'avait pas une relation de foi envers Dieu. Maintenant, la troisième décision, c'est celle de Naomi. Et Naomi nous représente en fait un croyant, justement, qui a quitté le rassemblement, mais qui s'est éloigné de Dieu, qui est allé dans le monde. Mais elle a pris une décision de retourner vers le peuple de Dieu. Et c'est ça, c'est quelque chose qui nous encourage. Peut-être il y a quelqu'un ici qui s'est aussi égaré, qui s'est éloigné de Dieu. Mais il y a toujours la possibilité de retourner. Et cela nous montre justement Naomi. Elle nous montre une âme qui est restaurée. Nous apprenons quelque chose de la restauration d'un croyant. Et j'aimerais montrer quelques points qui concernent la restauration. Le premier point, c'est au verset 6. À la fin, l'Éternel avait visité son peuple pour leur donner du pain. C'est-à-dire, chaque restauration commence par la grâce de Dieu. Elle était dans une mauvaise situation ici. Si nous lisons l'état dans lequel Naomi se trouvait après ses 10 ans d'avoir été à Moab, nous lisons à la fin du verset 5, elle était privée de ses 2 enfants et de son mari, donc elle était seule, solitaire. Deuxième point, elle était, au verset 20, elle parle, appelez-moi Mara, qui signifie amère. Et troisièmement, au verset 21, elle dit, l'Éternel me ramène à vide. Donc elle était seule, elle était amère et elle était vide. Ça, c'est l'état d'une personne qui était 10 ans à Moab dans le monde. On ne trouve rien dans le monde. Le monde prend, il ne donne pas. Il nous laisse vide. Si nous lisons plus tard, après, dans le chapitre 3, Ruth était vers Boaz. Et Boaz lui donne 6 mesures d'orge pour qu'elle ne rentre pas vide vers sa belle-mère. Si nous restons vers le Seigneur Jésus, nous recevons toujours quelque chose pour notre cœur. Si nous partons dans le monde, on va rester seul, amer et vide. Donc, nous apprenons, finalement, si une âme est restaurée, elle est tirée par la grâce de Dieu. C'est en fait même pas leur état misérable qui lui a poussé de rentrer à Bethléem. Non, c'est la grâce de Dieu, parce qu'elle a entendu que l'Éternel a visité son peuple. Le deuxième point, au verset 7, « Et elle partit du lieu où elle était », c'est-à-dire séparation du mal. Pour restaurer une âme, il faut se séparer du mal. Elle est partie du lieu. Et le troisième point qui correspond aussi au deuxième point, c'est au verset 8. Allez retourner chacune dans la maison de... Non, c'est pas ça. À la fin du verset 7, en chemin pour retourner dans le pays de Juda. Troisième point, alors, retourner vers Dieu. Alors, il y a toujours 2 choses. Il faut se séparer du mal et il faut se tourner vers Dieu. Et ces 2 aspects vont toujours ensemble. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans s'éloigner du mauvais, sans se séparer du mal. Ça, c'est très important. Aussi, dans la pratique, c'est comme ça. Ce matin, j'ai quitté mon lieu de résidence pour arriver à Strasbourg. Si je n'avais pas quitté, je ne serais jamais arrivé ici. Et ça, c'est la même chose. Nous pouvons prier, Seigneur Jésus, j'aimerais m'approcher de toi. C'est important que nous avons cette prière. Mais si nous ne sommes pas prêts à quitter, nous séparer du mal, nous nous approcherons jamais plus proche du Seigneur Jésus. Puis, un 4e point concernant la restauration. Si nous n'avons pas lu tous les versets, mais dans les versets 8 et précédents, les suivants, nous apprenons que la restauration prend du temps. Ça prend du temps. Au début, elle est très négative. Elle dit toujours à ses belles filles, restez à Moab, venez pas avec moi, etc. Pourquoi? Après 10 ans avoir été dans le monde, on perd de lumière. On n'a plus cette point de vue. Elle regarde seulement sur les choses terrestres. Elle parle du pain, elle parle de mari, elle parle des enfants. C'est seulement des choses terrestres. Mais si nous continuons à lire ce livre, nous voyons que Naomi avait été restaurée complètement. Finalement, dans le chapitre 4, elle était nourrissant du fils de Ruth et Boaz. Donc, la restauration prend du temps. Ensuite, nous avons au verset 20 un cinquième point. La restauration demande aussi une confession. Je suis conscient que cette phrase, on peut comprendre dans différemment. Je m'en allais combler et l'Éternel me ramène à vide. On peut aussi lire ce verset comme une accusation envers Dieu. Mais je crois qu'on peut aussi lire une certaine confession parce qu'elle dit « Je m'en allais combler ». Elle dit pas « Mon mari est allé et moi je devais suivre ». Non, elle dit « Moi je suis allé et l'Éternel m'a ramené ». Alors, je pense quand même on peut lire dans ce verset aussi une certaine confession qu'elle exprime. Et cela est aussi important pour nous. S'il y a besoin d'une restauration, c'est parce que nous avons détourné de Dieu. Alors, il faut confesser ce qui est faux et puis nous pouvons revenir à Dieu. Et un sixième point, l'Éternel me ramène à vide. Finalement, c'est l'Éternel, c'est Dieu qui restaure. Psaume 23, au verset 3, « Il restaure mon âme ». Si une âme est restaurée, bien sûr, nous avons vu les points que chacun doit faire, se séparer du mal, etc. Mais finalement, nous sommes attirés par la grâce de Dieu et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous restaure. Et nous avons encore un huitième point, c'est au verset 19. Toute la ville s'émut à leur sujet. Ceux de Bethléem, ils ont montré la joie envers Naomi qui est retournée. Et ça, ça aide. Si quelqu'un revient au rassemblement, qui a peut-être quitté, même des années, et qui revient, comment nous nous comportons envers cette personne? Est-ce que nous nous réjouissons? Est-ce que notre cœur est ouvert, comme ces Bethléemites? Ou bien est-ce que nous disons, oui, s'il revient, d'abord, tout profond, il va confesser, puis après quelques années peut-être, nous l'invitons, nous sommes gentils, etc. Ou bien, dès le début, nous nous réjouissons. Est-ce que nous sommes émus comme ceux de Bethléem? Non, je crois que c'était le septième point. Je m'excuse. J'ai encore un huitième. Au verset 22, à la fin, elles vinrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Dans Ruth, nous voyons une jeune convertie. Naomi nous présente une vieille croyante qui s'est éloignée de Dieu, mais qui est restaurée maintenant. Et les deux viennent à Bethléem au commencement des orges. C'est le début de la moisson. L'orge est toujours avant le blé, c'est toujours comme ça après des milliers d'années, c'est toujours comme ça. L'orge est toujours le début de la moisson. Donc, elle reçoit une pleine bénédiction. Et ils reçoivent les mêmes bénédictions. La jeune convertie et celle qui est restaurée. Et est-ce que cela n'est pas un encouragement pour nous tous? Nous avons sûrement tous déjà fait des fautes. Mais si nous confessons nos fautes, le Seigneur, Dieu nous pardonne, il nous purifie de toute iniquité, nous sommes restaurés et ensuite nous jouissons de la pleine bénédiction spirituelle. Et finalement, l'heure est avancée, mais j'aimerais encore, pour terminer, montrer la décision de Ruth. Et nous la trouvons dans les versets 16 et 17. Ruth avait les mêmes, les mêmes conditions comme Orpa, exactement les mêmes. Ils avaient un mari qui venait de Bethléem, ils avaient exactement les mêmes conditions. Mais ce qui était différent, c'est la foi. et l'amour envers Dieu et son peuple. Et nous avons une décision qui est prise par Ruth, et nous pouvons distinguer 7 différents aspects. Le premier aspect, c'est, elle dit, « Car où tu iras, j'irai ». Elle avait amour pour ce chemin, et nous voulons l'appliquer maintenant à notre chemin collectif. Est-ce que tu as de l'amour pour le chemin collectif, pour le chemin, pour la vie d'assemblée? Est-ce que tu as de l'amour? Est-ce que tu veux aller ce chemin collectif? Deuxième point, où tu demeurerais, je demeurerai. Elle voulait là demeurer, c'est-à-dire dans le pays de Canaan. Et le pays de Canaan nous parle des lieux célestes et y compris sont les bénédictions spirituelles. Nous pourrions lire Éphésiens 1, et là nous voyons, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des héritiers avec Christ, et nous appartenons aussi au corps de Christ, c'est-à-dire à l'Assemblée. Cela sont tous des bénédictions spirituelles. Alors, elle a le désir, elle a d'intérêt pour, dans l'application, pour ces bénédictions spirituelles. Je ne sais pas si ce que tu penses quand tu entends ces termes, bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, c'est un peu compliqué. Des fois on dit, ouais, c'est trop, on ne peut pas suivre. Je ne dis pas que c'est facile, mais est-ce que nous avons de l'amour, de l'intérêt pour ces choses? Est-ce que nous lisons la parole, les épîtres, pour mieux comprendre ce qui nous a été donné? En tout cas, Ruth, elle avait le désir de demeurer là où Naomi demeura. Troisième aspect, ton peuple sera mon peuple. Est-ce que nous avons de l'amour pour le peuple de Dieu? Vous savez, la vie d'assemblée, nous pouvons seulement pratiquer avec les autres. On ne peut pas pratiquer assemblée tout seul, ce n'est pas possible. Alors nous avons besoin des frères et sœurs, c'est logique. Mais est-ce que nous avons de l'amour pour les frères et sœurs avec lesquels nous nous rassemblons? Ou bien nous critiquons toujours les frères et sœurs? Est-ce qu'il y a toujours ça qui ne va pas et celui qui est pénible, etc.? Non, la question c'est, est-ce que nous avons de l'amour? Est-ce que nous sommes prêts à vraiment aller le chemin tous ensemble et pas être contre nos frères et sœurs? Puis, quatrième aspect, c'est ton Dieu sera mon Dieu. Ça, c'est le centre. Et j'aimerais terminer avec ça. Mais avant, après ce quatrième chose, nous avons encore trois aspects concernant la mort. Elle dit, là où tu mourras, je mourrai. Deuxième, j'y serai enterré. Et troisième point, si la mort seule ne me sépare de toi. Alors, trois au début, trois à la fin, et au milieu, mon Dieu, ton Dieu sera mon Dieu. Et ces choses concernant la mort, on peut expliquer comme ça pourquoi c'était si important où on est enterré. Si nous lisons l'histoire des patriarches, nous voyons que tous, ils avaient le désir d'être enterrés dans le pays de Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient la résurrection, ils attendaient le Messie qui établira son règne millénaire. Alors ça, c'est l'aspect de doctrine. Mais pour nous aussi, dans l'application, la mort est importante. Que nous sommes conscients que nous sommes morts avec Christ. Nous sommes morts et Christ vit en moi. Et nous pouvons seulement aller le chemin collectif dans l'Assemblée, mais aussi personnellement avec le Seigneur Jésus, si nous mettons en pratique que nous sommes morts avec Christ. C'est très important aussi pour l'affranchissement, c'est très important d'être conscient que nous sommes morts avec Christ. Et finalement, c'est Christ qui doit vivre en moi. Mais j'aimerais terminer avec cet aspect au milieu, ton Dieu sera mon Dieu. Ça, c'est l'amour pour le Seigneur Jésus. Et ça, c'est l'essentiel. Le Seigneur Jésus est le centre de l'assemblée, du rassemblement. Il est aussi le centre de ma vie. Est-ce que tu as de l'amour pour le Seigneur Jésus? Je crois que la mesure que nous aimons, avec la mesure que nous aimons le Seigneur Jésus, comme ça sera aussi notre bénédiction. Pratique, c'est très pratique maintenant. Qu'est-ce que tu peux parler, qu'est-ce que tu peux raconter de ton Seigneur? Dans le livre des livres, la bien-aimée, dans le chapitre 5, elle a décrit son bien-aimé depuis sa tête jusqu'aux pieds. Et elle conclut et elle dit, toute sa personne est désirable. Ça, c'est mon bien-aimé. Pour toi, qui est le Seigneur Jésus pour toi? Est-ce que tu as vraiment plaisir à t'occuper avec la personne du Seigneur Jésus? Ça, c'était la décision de Ruth. Elle voulait aller avec Naomi jusqu'à Bethléem parce qu'elle savait, là, il y a un Dieu, le Dieu vivant. Et nous espérons de voir après, dans le deuxième chapitre, quelle bénédiction elle a reçue, cette Ruth, parce qu'elle a pris cette décision. Oh.